5, 4, 3, 2, unité.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de
l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en France.
Eh oui, il y a du boulot. Bienvenue à tous dans cette auberge espagnole du mardi 27 novembre 2012. On parlera eh bien, de musique en deuxième partie d'émission avec Stronek, un groupe de pop-rock ou de rock, ils nous le diront eux-mêmes ce qu'il en est. Et puis une interview proposée par Mounir Etaïba de l'artiste rappeur Monotov qui se produit en première partie de Flint. Et tout ça, c'est mercredi 28, demain. Et puis tout de suite en première partie, eh bien, on va parler économie collaborative et économie classique. On parlera aussi revendications motard. Donc on commencera avec une interview de Vincent Ricordo, le cofondateur et CEO de Kiss Kiss Bang Bang, qu'on avait reçu au mois de février pour parler eh bien justement crowdfunding, comme on dit, très à la mode aujourd'hui en anglais. Et puis on parlera, on l'a eu au téléphone hier, et puis on parlera en direct en plateau avec Jean-Michel Sénéchal des diverses campagnes que mène la Fédération Française des Motards en Colère par rapport au brassard réfléchissant, sorte d'étoile jaune du motard, de l'évolution du permis moto et d'autres actus motardes et non pas moutardes, même si parfois ça leur monte au nez. Et puis avant tout ça, eh bien, de la musique évidemment dans cette auberge espagnole. Peut-être même aurons-nous un Simon Morin qui viendra à l'improviste avec un truc génial. Et pour l'instant, c'est de la musique qu'on va écouter avec Light Mode. C'est le Koa Jazz Orchestra qui est en concert cette semaine. Je vous dirai où juste après.
Thank you.
Ah, je l'aime bien ce Light Mode. C'est le Koa Jazz, le grand ensemble Koa, qui se produira donc cette semaine. Ce sera lors du, dans le cadre des Jeudis en musique. Ça se passe à la Maison des étudiants de la Fac Paul Valéry à 12h15, comme d'habitude. C'est donc ce jeudi 29 novembre. Et puis, eh bien, à présent, on va parler de toute autre chose. On reparlera de jazz un petit peu plus tard dans cette auberge espagnole avec des invitations à la clé. Mais on va écouter une interview que Vincent Ricordo, le cofondateur de Kiss Kiss Bank Bank, un système de financement collaboratif. On l'a eu hier au téléphone à propos d'un débat qu'il co-organise avec d'autres partenaires entre l'économie collaborative et l'économie et classique. C'est pas tout à fait de l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, on abordera la différence entre les deux. Donc, c'est avec WeShare qu'ils organisent cette première rencontre du troisième type, entre guillemets, entre économie classique et économie collaborative. C'est aujourd'hui, ce n'est pas à Montpellier, c'est à Paris, mais peut-être qu'il y aura des enregistrements ou des captations qu'on pourra diffuser. Ça vaut le coup d'en parler. Une rencontre du troisième type qui fait référence à la troisième révolution industrielle inventée et popularisée par Jeremy Rifkin, célèbre américain. Allez sur le site de Divergence pour voir toutes les références. Un débat qui a pour but de faire se rencontrer et échanger économie classique et collaborative, Renault et Blablacar, la Banque Postale et Kiss Kiss Bank Bank, avec notamment une intervention de Neil Gorenflot, l'auteur de Share or Die et rédacteur en chef de Shareable.net, un magazine américain de référence sur l'économie du partage. Voilà, une petite interview. Et puis ensuite, on parlera moto. Mais pour l'instant, cette interview enregistrée donc hier au téléphone. On est au téléphone avec Vincent Ricordo. Bonjour Vincent.
Bonjour Montpellier, comment ça va Montpellier ?
Eh ben ça va bien, depuis le mois de février où tu nous avais rendu une petite visite à l'occasion de ton apparition chez Illusion et Macadam, si ma mémoire est bonne.
Exactement. Alors, avec qui on entretient de parfaites relations depuis, avec qui on fait beaucoup de choses.
Voilà, et puis c'était aussi pour parler de HAG qui avait, à travers l'outil que tu as cofondé, Kiss Kiss Bank Bank, qui avait mené son projet, qu'il a mené à bien depuis, de vinyle. Donc, mais on n'est pas là pour parler très précisément de Kiss Kiss Bank Bank, que j'invite les gens à aller voir l'article du 7 février sur le site de la radio. Mais on est là pour parler d'une rencontre du troisième type que vous organisez avec plusieurs partenaires. Une rencontre du troisième type qui organise un débat entre l'économie collaborative et l'économie classique. Et pour en parler, pas mal de têtes d'affiche, j'ai envie de dire.
Écoutez, pas mal de têtes d'affiche. L'économie collaborative est en plein essor, en pleine explosion, que ce soit la colocation, le covoiturage et un petit peu partout, que ce soit chez nous, aux États-Unis. C'est vraiment une économie qui est en plein boom, qui a trouvé son nom maintenant, puisqu'on l'appelle l'économie collaborative. Et il se trouve que cette économie collaborative, par essence, elle est un peu disruptive par rapport à l'économie classique. Et du coup, pour la première fois, demain, on va mettre sur scène à la fois des acteurs de l'économie classique et des acteurs de l'économie collaborative pour qu'un débat puisse s'installer et pour voir un petit peu ce qu'il en sort. Alors pour organiser ou commenter la soirée, on a Neil Gorenflot qui vient des États-Unis, qui est le rédacteur en chef ou l'éditeur d'un site qui s'appelle Shareable, qui est le plus gros média sur l'économie collaborative dans le monde. Et donc qui vient orchestrer un petit peu la soirée. On organise également cet événement avec WeShare, qui est la plateforme la plus costaud aujourd'hui en France sur l'économie collaborative au sens large, que je vous invite à aller visiter. C'est vraiment un recensé très complet de ce qui se fait dans l'économie collaborative sur tous ces segments, que ce soit le crowdsourcing, le crowdfunding, le covoiturage, en fait toute l'économie du co. Et il y aura également ce qu'on appelle chez nous une battle de créateurs, c'est-à-dire trois projets qui vont venir présenter leurs projets devant toute l'assistance, qui seront trois projets dédiés à l'économie collaborative, et celui qui recueillera le plus de votes pendant cette soirée se verra sponsorisé, va-t-on dire, par la Banque Postale, qui contribuera à hauteur de 50% de sa collecte de fonds. Mmh. Du coup, on va réunir vraiment tous les acteurs possibles, imaginables, demain, de l'économie collaborative à Paris pour la première fois, et de façon très variée, et pour ouvrir justement cette soirée et pour faire en sorte que cette économie puisse discuter avec l'économie classique ou l'économie de l'ancien monde, on va mettre tout ça, tout ce monde-là sur la même scène pour essayer d'en sortir un maximum d'informations sympas et surtout de prospectives.
Tout ça dans le cadre finalement d'une référence à une troisième révolution industrielle popularisée par Jeremy Rifkin, un américain qui s'est illustré dans son influence sur les milieux politiques et puis dans ses prises de position, que ce soit par rapport à la guerre au Vietnam ou aux compagnies pétrolières euh, ou,
ou d'autres. Donc quelque part, c'est des initiatives qui font un peu boule de neige en ce moment. On a l'impression que ce soit dans l'informatique, les géants qui commencent à se dire « Oulala, il faudrait qu'on suive un peu le sens du vent parce que sinon on passera pour des... » Je ne vais pas le préciser. Et on a l'impression que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie un petit peu, étant donné le contexte de crise dont on nous serine les oreilles.
Oui, alors contexte de crise, dans les années 80, on nous disait déjà que c'était la crise. En fait, 20 ans après, on nous disait que c'était les années fric, donc on ne sait jamais vraiment où est la crise. On ne sait pas si actuellement on vit une crise de l'économie fondamentale et classique ou une crise de confiance et de l'avenir. Mais une chose est sûre, c'est que parallèlement à ça,
ou une économie de la crise.
Elle croit à une vitesse grand V. Il y a des acteurs qui naissent tous les jours dans l'économie collaborative. C'est une vraie alternative à l'économie classique et non pas une économie d'ailleurs qui vient en frontal complètement toujours avec l'économie classique. Elle est destructive par essence, elle vient refonder ou reformater les fondamentaux, faire des propositions sur l'organisation de la société et de l'économie est complètement différente. Au lieu d'avoir des gros schémas pyramidaux très patriarcaux issus de la première, la deuxième révolution industrielle, on va tout droit vers une organisation beaucoup plus latérale où chacun dans son coin pourra apporter sa pierre à l'édifice sans pour autant appartenir à des groupes gigantesques monopolistiques avec tout ce que ça a pu entraîner comme on l'a appris à nos dépenses ces dernières années. Donc c'est une vraie vision différente. C'est vrai que vous citez Rifkin, c'est un peu le pape ou l'évangéliste de cette économie ou de cette révolution industrielle. Et c'est vrai qu'on est évidemment très en ligne avec ses analyses, très en ligne avec sa philosophie et on s'inscrit tous dans le prolongement de ses pensées et de ses perspectives.
Alors ce mois de novembre 2012 qui se termine, c'est en France le mois de l'économie sociale et solidaire, ouais. Qui est une notion bigrement ancienne, qui a eu à peu près une paire de siècles. Est-ce que finalement, les acteurs modernes de la collaboration ou d'une économie collaborative, finalement, ils remettent aussi au goût du jour des fondamentaux, et puis peut-être qu'ils ont des outils qui font qu'on est plus visible?
Ouais, alors il y a une vraie différence de philosophie. C'est-à-dire, si on devait situer l'économie collaborative sur l'échiquier des diverses économies visibles et repérables, on aurait à gauche, qu'on peut faire plutôt à droite d'ailleurs, l'économie classique est devenue ultra-financière en direction des actionnaires avec des systèmes pyramidaux toujours de plus en plus gros et de plus en plus monopolistiques avec un seul objectif qui est le profit. Et puis de l'autre côté, donc plutôt à gauche, on aurait l'économie sociale et solidaire qui existe depuis très longtemps, qui elle a la recherche systématique d'impact social quasi exclusif avec des lourdeurs quand même assez importantes souvent, notamment au niveau statut, et qui réfute un petit peu les notions de business au sens large. Et du coup, l'économie collaborative viendrait se positionner, on va dire, entre les deux, avec des vraies valeurs communes et véritablement en commun avec l'économie sociale et solidaire, mais en possession d'outils complètement différents et avec une philosophie qui est quand même de fabriquer des entités et des groupuscules qui peuvent travailler les uns avec les autres de façon latérale pour sortir des modèles et des business models qui soient fiables et qui soient pérennes dans le temps, qui soient constructeurs de valeurs, pas seulement sociales, mais également économiques. Donc du coup, on est très proche de valeurs, très proche des valeurs de l'économie sociale et solidaire, et on essaye de garder quand même ce qui potentiellement aurait pu faire la richesse d'une économie libérale, à savoir l'autonomie complète, la non-appartenance à des groupuscules bien identifiés et sclérosants. Donc c'est un peu, on va dire, je crois, assez sincèrement, la prise en compte de ce qu'il y a de mieux dans deux économies ou deux pensées qui s'opposent vraiment frontalement, avec du coup un amalgame en fait évident, qui est très lié à ce que vous disiez tout à l'heure, à l'émergence évidemment du web, puisque c'est évidemment l'Internet et le web qui permet aux gens de se mettre en contact les uns avec les autres, de agrandir les réseaux par le peer-to-peer, et du coup de pouvoir fonctionner en faisant fi des intermédiaires classiques. Donc on est vraiment, je pense, au confluent, ou en tout cas vraiment très central entre l'économie sociale et solidaire à gauche et l'économie, on va dire, ultra-libérale, débridée, non régulée sur la droite.
Comme ça a été dit tout à l'heure, cette rencontre a lieu à Paris ce 27 novembre, au Petit Bain pour ceux qui y seront. Est-ce qu'il y aura une captation audio et vidéo de ces interventions pour éventuellement ceux qui seraient très intéressés, mais qui seraient par exemple à Montpellier?
Alors, est-ce qu'il y a une captation audio et vidéo demain de l'événement? Je crois que oui. Par contre, est-ce qu'on a une adresse sur laquelle on peut... Est-ce que c'est streamé ou pas? Ça, j'ai un doute. Non, il y aura une captation, mais il n'y a pas de streaming.
Ouais, mais...
Par contre, donc, on pourra communiquer les liens
voilà, posteriori.
Demain soir, ou après-demain matin pour les gens qui sont dans le sud et qui ne pourront pas venir nous voir à Paris.
Et voilà, ils n'auront plus qu'à venir faire un tour sur le site de Divergence. On relaiera toutes ces informations. Vincent Ricordo, merci beaucoup. On vous souhaite à tous que ces rencontres se passent le mieux du monde et que ça fasse avancer le schmilblick de cette troisième révolution industrielle.
Eh bien, écoutez, merci à vous de l'attention que vous portez toujours à tout ça. Et on vous embrasse de Paris et à très bientôt.
Excellent titre qu'on écoutait, For the Love of Money. À présent, eh bien, dans une petite minute qu'on va passer avec ZZ Top, on va parler de l'actu motarde de la Fédération Française des Motards en Colère avec Jean-Michel Sénéchal. L'actualité, ça commence par la FFMC qui s'affiche contre l'obligation du brassard rétro-réfléchissant. Dans deux mois, s'il n'est pas abrogé d'ici là, le décret du 3 janvier 2012 obligera les motards à porter des éléments rétro-réfléchissants supplémentaires sous peine d'être passible de verbalisation et de perdre 2 points sur leur permis de conduire. Pour alerter les motards sur cette mesure, la FFMC publie 4 affiches et lance une pétition en ligne. Jean-Michel, bonjour.
Oui, salut Gilles, merci de nous recevoir. Oui, comme tu le disais justement, nous on n'est pas contre les rétro-réfléchissants, on est contre l'obligation de les porter. Tu sais que ça va nous coûter 68 euros, bon ça c'est de l'argent, mais c'est 2 points aussi. Mmh. Alors pour une mesure qui est vraiment une mesurette pour nous, ça nous paraît un peu débile quoi.
Voilà, surtout quand on voit le non-dialogue qu'il y a entre les autorités et les fabricants d'équipements et le prix des équipements, les blousons, etc. On se dit que ça serait plus facile de légiférer et de dire que tous les équipements motards doivent intégrer des dispositifs rétro-réfléchissants, parce que c'est pas vraiment une obligation. Hein. On le voit sur les tests qui sont publiés sur les équipements, ça court pas les rues, les équipements qui sont bien pensés pour la nuit.
Voilà, oui, effectivement, il y a certains fabricants qui font déjà des liserés rétro-réfléchissants. Bon, on pourrait les agrandir tout simplement, mm-hmm. et puis ils seraient quand même mieux vus, parce que là, le brassard, c'est une idée, enfin, ils veulent nous sauver la vie, c'est une bonne idée, mais enfin, nous, on aimerait bien quand même qu'on réfléchisse avec eux. Hein. Le Grenelle du deux roues a été fait pour ça aussi, qu'on réfléchisse non seulement à la sécurité du motard, mais aussi à son équipement. Mm-hmm. Donc, on a des solutions, on peut le mettre en œuvre avec les fabricants sans avoir l'obligation de le porter, quoi.
Voilà, alors parmi les comme d'habitude, avec pas mal d'humour, les affiches, par exemple, c'est « Je suis jaune, je mesure 150 cm², je n'ai aucun impact sur la sécurité des motards, mon absence coûte 68 € et 2 points, qui suis-je ? Que suis-je ?» La réponse est « Je suis un piège », ou encore « Les motards attendaient un grand rendez-vous sur la sécurité routière, visiblement le gouvernement leur a posé un lapin ». Là, c'est pour illustrer le non-dialogue, même si on organise des grenelles, des machins, des trucs, finalement, bah, des fois, c'est... Ça n'impacte pas.
Exactement. Cette campagne publicitaire a été faite par un de nos militants, toi, comme quoi nous, on réfléchit quand même aussi, même à la communication. Simplement, le motard se déplace tous les jours avec son véhicule et le phare allumé. En plus des rétro-réfléchissants, on en a 4 sur les casques, donc on n'en a pas besoin de beaucoup plus. Et puis ce qu'on met en avant, c'est surtout la prise en compte des deux roues. Alors quand je dis deux roues, hein, c'est tous les deux roues, hein, on est bien d'accord, à chaque fois je le répète, mais c'est important, c'est tous les deux roues. Tant qu'il n'y aura pas un réel partage de la route, ça ne pourra pas le faire. Le motard, on pourra lui mettre n'importe quoi sur le dos. Si l'automobiliste ne veut pas le voir, il ne le verra pas. Mmh. Donc, prise en compte des deux roues, surtout.
Voilà, et puis quelque part, c'est toujours un petit peu la mode des surenchères réglementaires et des sanctions disproportionnées qui sont liées.
Voilà. En fait, on le prend comme simplement une possibilité encore de nous verbaliser, de prendre de l'argent, quoi. Ça fait encore partie du racket.
Voilà. Le 16 octobre, les militants de la FFMC manifestaient à Montpellier justement par rapport à ça. Toujours pour, on va dire stop aux fausses mesures de sécurité routière qui servent plus souvent à faire rentrer de l'argent dans les caisses qu'à avoir une réelle efficacité. Là, toujours pareil, hein, y a encore du boulot à faire.
Et oui. Alors le 16 octobre, on a fait des heures sup, nous, hein, on s'est mobilisé le soir. C'était pas tout à fait une manif, hein, on va appeler ça une opération commando, tout simplement. Mmh. On était une petite douzaine, une petite quinzaine de motards, de militants, la FFMC 34, et on s'est promené dans les rues de Montpellier. On était escortés par la police, parce que bien sûr c'était une action qui était déclarée en préfecture, hein. Et on a tout simplement bandé les yeux avec des rétro-réfléchissants de nos grands visionnaires.
Mmh. Donc on
les
a statues,
les statues de Montpellier, et les ont eu le droit à un bandage d'yeux. Mao, De Gaulle, Gandhi, Moïse aussi. Et on a voulu bander les yeux de Louis XIV, qui est perché sur son cheval
au Pérou.
La hauteur nous...
Vous a dissuadé.
Nous a dissuadé. On est monté sur le piédestal quand même, mais de là à monter sur le cheval, ça paraissait un peu précaire comme action. Donc on s'est dit, on ne va pas se blesser quand même pour ça. Ouais. Mais enfin, on a passé un bon moment. Et puis apparemment, bon, j'espère que le message est passé. Et on espère, comme d'ailleurs le... Il est dit, on n'en a pas la certitude, mais que l'éthylotest sera abandonné.
D'accord.
Donc c'est vrai que ça, c'était un petit peu débile aussi comme mesure, hein, pour prendre du pognon. Et puis on espère que le brassard fluo sera aussi abandonné et qu'on pourra se remettre autour d'une table et discuter avec les acteurs de la sécurité routière au niveau des pouvoirs publics pour avancer, pour qu'il y ait une réelle compréhension du deux roues.
Mmh. Voilà, une compréhension du deux roues et puis de la circulation en général, parce que bon, on a parfois l'impression que c'est pas vraiment le cas. Le 19 janvier 2013, le nouveau permis de conduire moto va entrer en vigueur. On a l'impression qu'on fait un retour en arrière, puisqu'on se souvient au tout début, ça allait de A1 à A4 en fonction des cylindrées. Et là, on va revenir donc à un permis, on va dire, morcelé en plusieurs catégories.
Alors effectivement, j'ai entendu parler de cette réforme, mais je n'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants. Il faudrait que je m'y penche un petit peu. Ce n'était pas prévu aujourd'hui en fait, d'en parler, sinon je me serais documenté, tu penses bien. Mais effectivement, on a un petit peu l'impression que c'est un retour en arrière. Ça me rappelle quelques années en arrière, puisque moi, c'était à peu près à l'époque où j'ai passé le permis, il y a une trentaine d'années, passé même. Nous, la réforme du permis, on est pour, à condition que ça nous apporte quelque chose de toute façon. Hein, parce que plus le motard sera informé et formé, ça, mieux ça sera. Maintenant, bon, je te dis, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Il faut savoir si c'est positif ou non. En règle générale, souvent, si ce n'est pas en concertation avec les motards, c'est rarement complètement positif, quoi.
Alors, pour ceux qui que ça intéresse, il y aura toujours le permis cyclomoteur AM qui s'obtiendra à partir de 14 ans avec la SSR passée en classe de 5e ou de 3e et le BSR qui passe à 7 heures avec 2 heures de théorie sur des scénarios d'accident, équipement en particulier, 5 heures de circulation. Il existe aussi le AM option quadricylindre léger, même condition mais 16 ans et un BSR passé sur un quadricycle, voiturette ou quad. Le permis AM n'est pas sanctionné par un examen et n'est pas soumis à une limite de points. Et puis le permis 125 A1, rien de changé, toujours 16 ans et une moto de 125 cm3 de 11 kW maxi avec un rapport poids-puissance de 0,1 kW par kilogramme. Une nouvelle catégorie, le A2, on peut le passer dès 18 ans et on ne peut passer que cela jusqu'à l'âge de 24 ans. Conduit d'une moto de 35 kW maxi, 47 chevaux et demi, avec rapport poids-puissance inférieur à 0,2 kW par kilo. De plus, si cela est obtenu par bridage, la moto dont elle est issue ne doit pas faire plus du double de la puissance obtenue. Et puis le permis moto A, accessible à partir de 24 ans ou après 2 ans de permis A2, plus 7 heures de formation complémentaire. Et puis une équivalence permis B 125, rien ne change sur la possibilité de conduire une 125 après 2 ans de permis auto, plus 7 heures de formation. Attention, il ne s'agit pas d'un permis et cette autorisation n'est pas valable partout à l'étranger. Donc voilà, ça sera début 2013, voilà, le 19 janvier 2013 que ce nouveau permis va être mis en place. On peut retrouver toutes les infos complémentaires évidemment sur ffmc34.org.
Voilà, ouais, c'est assez complexe. Cette réforme. Nous, ce qu'on veut, c'est que la formation soit renforcée. Ça, c'est primordial. Un jeune conducteur ne saura jamais assez bien conduire après l'obtention de son permis. C'est pour ça que d'ailleurs, la FDM développe les stages post-permis et qu'on a fait la première journée JJP, journée jeune permis, il y a une quinzaine de jours. Bon, le temps n'a pas été favorable, mais en tout cas, on s'est aperçu que les jeunes permis étaient demandeurs de formation supplémentaire par rapport à ce qu'ils ont appris à l'auto-école. Donc on espère que ce nouveau permis, enfin cette nouvelle réforme facilitera cette tâche, quoi.
Et puis, dernière info, peut-être la fin de la loi des 100 chevaux pour 2016, puisque en votant le nouveau règlement sur l'homologation des véhicules, le Parlement européen va mettre fin à la loi des 100 chevaux, une loi qui est presque une exception culturelle française, qui vise justement à limiter les motos à une puissance de 100 chevaux par bridage, par les constructeurs, etc. Une mesure qui a souvent été, dont l'hypocrisie a souvent été dénoncée par FFMC en disant que ça n'a pas de réel sens finalement.
Bah écoute, oui, tout à fait. Hein. On est l'exception avec l'Inde, je crois. Mais bon, l'Inde n'a pas de grosse cylindrée. Nous, on est contre ce bridage, tout simplement parce que c'est une ineptie. Il faut savoir que moi, par exemple, je possédais un 1400 ZDR jusqu'à samedi. Il faut savoir que la moto est bridée à 106 chevaux, alors qu'elle en fait 200 en version libre, on va dire. Et que la moto monte en vitesse de pointe à 250-260 km/h en version bridée et à 340 en version débridée. On n'a pas le droit d'aller ni à l'une ni à l'autre. Et la raison veut qu'il ne faut pas y aller d'ailleurs, de toute façon. Hein. Mais donc voilà, alors là, c'est quoi la différence ? Je ne vois pas. Le bridage n'a pas lieu d'être, en fait. C'est simplement, on peut imaginer une voiture de gros cylindrée en débranchant 4 cylindres sur un V8, quoi. Ça serait stupide. Parce que avoir une moto puissante, une grosse moto, c'est pas forcément pour la vitesse, c'est simplement pour avoir un agrément moteur, un petit peu comme l'automobiliste qui a la possibilité d'avoir une grosse voiture et qui a un gros moteur. C'est pas forcément pour la vitesse, c'est aussi pour l'agrément.
Voilà, d'autant que aucune étude n'a jamais démontré de lien entre puissance et accidentalité, raison pour laquelle Bruxelles estime aujourd'hui qu'il n'y a plus aucune raison de maintenir cette limitation qui empêche la libre circulation des véhicules. Cette loi des 100 chevaux, en plus d'être inefficace, a exposé les motards français à une précarité intolérable. En cas d'accident, les assureurs pouvant refuser de prendre en charge un sinistre occasionné avec une moto remise dans sa configuration d'origine. Là aussi, ça pouvait effectivement créer des problèmes entre guillemets collatéraux, quoi.
Voilà.
Donc le règlement de cette loi doit encore être adopté par le Conseil de l'Union pour devenir définitif et sera applicable à partir du 1er janvier 2016, ce qui laisse quand même encore un petit peu de temps. On retrouve toutes ces infos sur ffmc.asso.fr pour ce qui concerne la loi des 100 chevaux et puis tous les liens sur ffmc34.org. Jean-Michel, merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie de nous recevoir.
À une prochaine fois, bien sur les ondes de Divergence. Et puis d'ici là,
avec un grand plaisir.
Bonne route. Un petit peu de musique à présent. Et puis on se retrouve tout de suite après pour parler musique. Out of gas, still burning.
Hey there.
Who, me?
Just your friendly neighborhood speed demon. I'm out to NASCAR, to fast car, to the last car, till there ain't no cars left. Let the gusts go by with enough dust flying around to make you cry, bite down and choke half near to death. I'm up here on your left. Sorry about that.
See, like you, I push a bucket. I like to burn big. Like you, I gotta cut all the bullshit out of my life to live. So I tell them, move over, this road ain't big enough for you. I'm flying like Knight Rider, they trying to keep up with their grandma outside. Besides, maybe they steel belts and radios expired. Maybe they tired, maybe their odometer needs to be rewired or something.
Machine on the Motorway sur Divergence pour illustrer ce petit tour de moto virtuel. En vous précisant que la FFMC 34 compte à l'heure actuelle 9963 adhérents et leur objectif avant le 1er décembre de cette année, c'est d'atteindre les 10 000. Donc si 37 d'entre vous ont envie d'adhérer à la FFMC, qu'ils n'hésitent pas, ffmc34.org. De la musique à présent, avec un concert à suivre, ce sera demain à la laiterie. Ça s'appelle Stronek. Et avant de les faire parler, on va d'abord les écouter.
Los lorsqu'elle a surgi, moi j'ai remarqué que tous les objets se sont mis à vibrer. Murmure, tremblement, il n'avait qu'un désir, naître, sourire, aimer et mourir. Lorsque j'ai plongé dans ses grands yeux noirs, c'est comme si je prenais un coup de poignard. Ventre noué, respiration difficile, vertige, chavirage, que m'arrive-t-il? Laisse-moi t'effleurer. J'ai voulu retenir comment son énergie pouvait m'éblouir. Un visage d'ange constellé réglisse, sourire clair, figure en délice. Un t-shirt noir sur des seins insolents, avec inscrit dessus en lettres rouges sang. La liberté c'est mourir dans l'instant. Vivant, 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 vivant. Ces crocs de rage, de coups tranchants dans ton cœur de pierre et le fracassé en particules lumière. Si un jour tu la croises et qu'elle te dévisage, passe ton chemin, regarde les nuages ou bien stoppe ton pas, soutiens la charge, arrache les barreaux, sors de ta
C'est Wilfried et Patrick qui sont avec nous, deux membres du groupe Stronek qu'on écoutait à l'instant et qui se produit donc demain soir à la Laiterie ici à Montpellier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors il faut parler près du micro, Wilfried.
Près du micro.
Une histoire qui remonte à octobre 2007 où Bernard Lopez, toi-même, Wilfried Souchière, Michel Hauser, Michel Viard et Roland Ruche répétaient des morceaux dans une cuisine, tandis que Michel trouvait ça super sympa parce qu'il y avait du bon vin. Le bon vin revient souvent dans l'histoire rocambolesque de Stronek. Rocambolesque, je dis parce que en janvier 2008, Michel Hauser disparaissait dans une faille spatio-temporelle. Ça n'arrive pas à tous les groupes, il faut bien l'avouer.
C'est vrai, c'est spécial.
Voilà, et puis pas mal de concerts, d'enregistrements, jusqu'à arriver à un grand tournant à l'automne 2010. Automne 2010, où tu as contacté Patrick, ici présent, qui a rejoint le groupe. Donc pas mal de chamboulements dans ce line-up depuis 2007.
Ouais, tout à fait. Pas mal de changements. Alors c'est vrai que... Donc, moi, je suis pas tout jeune, j'ai 47 ans, je suis pas non plus trop vieux, mais je suis pas tout jeune. Et par contre, je suis venu assez tard à la musique. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire?
Et donc, tu as mis l'accélérateur.
Voilà, j'ai mis l'accélérateur, exactement, Patrick, heureusement que tu es là. Et voilà, je mène un peu la barque. Et effectivement, au fil du temps, au fil des rencontres, les choses bougent, les gens s'en vont, il y en a d'autres qui reviennent, il y en a qui sont toujours là, puisque Roland est là depuis le début. Puis Patrick est arrivé depuis 2 ans. Et puis, des choses avancent quand même, ça se précise, même au niveau musique, au niveau des textes, au niveau de tout, des enregistrements, les choses avancent et se précisent, c'est ce que je disais. Et voilà, donc on en arrive là, à la laiterie. Donc c'est le deuxième CD, en fait, même le troisième CD qu'on a fait, toujours de moins en moins dans la cuisine, en fait. On sort de la cuisine et on s'aventure dans le studio de plus en plus. Donc celui-là est le plus abouti, sans doute, des trois. Voilà, donc après, je peux rentrer plus dans les détails.
Avec quelques featuring, on entendait là Manu Chevalier à la trompette.
Manu Chevalier, Thierry Ponté, chez qui nous nous sommes rencontrés avec Patrick. Voilà, donc toutes ces rencontres. Donc il y a Michel Viard aussi qui joue un peu de batterie sur ce CD qui était là, Michel qui était là avant. Bernard Lopez qui est toujours plus ou moins là, avec qui on a composé un ou deux morceaux, qui fait du clavier. Isa Perry qui est venue faire des chœurs. Voilà, j'en oublie sûrement parce que ça va vite là, mais voilà, c'est une aventure avec des gens qui arrivent, qui repartent, ils sont là. Et voilà, mais enfin, les 5 à la laiterie, nous serons les 5 de guitare, chant, basse, batterie, quoi. Il n'y aura pas de trompette demain.
Il n'y aura pas de trompette, mais si certains peuvent le faire avec la bouche parce qu'ils sont super forts.
Ah ouais, ouais, bien sûr, c'est ouvert, c'est ouvert.
Et avec des influences croisées, avec tous ces gens qui sont passés, j'imagine qu'il doit y en avoir pas mal. Toi, c'était quoi ton bassin?
Mon bassin, c'est moi, je suis né en 65, donc voilà, quand j'étais petit, mon père écoutait Magma, Pink Floyd, voilà, moi c'est ça quoi, ma base c'est ça, Pink Floyd, Beatles, Magma, Deep Purple, voilà, à 13 ans, un enfant, mon père était instit, lui avait offert un disque de Deep Purple, c'était comme Taste the Band, moi j'étais petit, et je croyais que le nom du groupe c'était comme Taste the Band, donc je cherchais partout comme Taste the Band, c'était du Purple en fait. Mais bon, voilà, moi c'est vraiment cette époque-là.
Alors toi Patrick, on t'a longtemps connu comme voisin de Divergence FM, puisque tu tenais la librairie Opéra Comics qui était juste en face. Mais pour autant, comme d'ailleurs beaucoup de gens qui sont très branchés bande dessinée, aussi tu es branché musique depuis toujours.
Ah bah oui, depuis toujours, oui. Même à l'époque d'Opéra Comics, qui est une vieille histoire maintenant.
Oui, je sais, des fois tu gratouillais dans ton voilà. Librairie.
Exactement. Et puis d'ailleurs, je passais des groupes à Opéra Comics. Ouais. Donc voilà. Et donc c'est une activité que je faisais un peu tout seul dans mon coin à l'époque, la guitare. Et au bout de tant d'années à gratter tout seul, j'étais bien content d'intégrer un groupe là.
Voilà, d'autant que alors tu avais donné des cours de guitare à Wilfried. À un moment donné.
Non, ça. Nous prenions des cours de guitare ensemble. Avec d'accord. Thierry Pontet.
Ah,
qui est sur le CD.
The Boss.
Oui, Thierry Pontet, un guitariste métal virtuose du coin. On va dire formé de l'autre côté de l'Atlantique.
Et excellent prof par ailleurs pour nous donner les bases. Voilà. On part du blues, on passe par Hendrix, et puis on arrive à Stronach.
Ouais, et puis voilà. Un peu super sympa et qui nous a permis de nous rencontrer.
Alors comment vous les écrivez ces morceaux? Est-ce que c'est
alors effectivement
collectif
c'est,
ou est-ce que chacun a sa spécialité?
Surtout moi en fait, ouais. Finalement, hein, je mène la barque et puis aussi j'écris et je compose l'essentiel des titres. Certains avec Bernard Lopez. Voilà, il y a Bernard Lopez qui plane toujours un peu par là, mais c'est pas une décision a priori que je compose seul. Hein. C'est joué comme ça jusqu'à présent, mais c'est pas quelque chose de définitif.
Donc vous êtes en concert avec pour présenter ce nouvel album de 13 titres, donc c'est à la laiterie, c'est demain, c'est à quelle heure?
21h le concert.
21h le concert, avec un tarif d'entrée défiant toute concurrence?
Ouais.
Chapeau.
Donc c'est entrée libre et puis évidemment comme on sort le CD, ben on espère en vendre quelques-uns quoi.
Voilà, absolument, absolument. Vous l'avez autoproduit, est-ce que oui. vous comptez le distribuer? Non, c'est, venez voir les concerts.
On fait ça comme ça vient, donc pour l'instant il est autoproduit, c'est nous qui avons tout fait, donc on le vend comme ça, après si
on peut le commander quand même sur le site. Hein,
oui, à Vendargue, puisque le siège de l'association est à Vendargue, Stronec Création 24, rue des Devèzes à Vendargue.
Et on pourra le trouver, ou, il sera en dépôt rue Saint-Guilhem à la boutique Mika.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, c'est parfait. Je rappelle que quand même, on retrouve toutes ces informations sur stronec.com. Ça s'écrit STROON2C.com. Si vous avez tout compris, je peux le répéter. STROON2C.com.
Bravo.
D'où vient ce nom étrange pour, voilà. pour terminer?
Alors ça, c'est une longue histoire. En fait, on ne sait pas vraiment d'où vient ce nom. On ne sait pas trop. À l'époque où on cherchait un nom, moi, un matin, je me suis réveillé, il y avait écrit Stronec sur l'ordinateur.
Je pense que c'est peut-être un nom qui est sorti de la faille spatio-temporelle
voilà,
dans laquelle vous avez égaré
des musiciens. C'est quelque chose comme ça. En tout cas, Stronec, donc depuis, il y a des théories qui se développent sur de savoir d'où ça vient. Donc, Stro, ça pourrait être le trou, en fait, c'est un dialecte danois. Et Nec, ce serait le nœud. Donc, ça voudrait dire nœud troué dans ce cas-là. Hein. Mais,
ou
le
trou dans le nœud. Ou
effectivement, le trou dans le nœud, on ne sait pas trop. Enfin, il y a une histoire de trou.
Encore une histoire de trou noir et de nœud l'espace courbe.
Il y a quelque chose comme ça.
Bon, eh bien, à la rencontre de la physique des particules, ce sera demain à la laiterie. Merci beaucoup d'être venu. On va se quitter avec le sixième extrait de cet album qui s'appelle Dans le rétro. Une histoire
de rétro.
De rétroviseur ou de rétroscopie?
Ah, de rétroviseur.
Merci beaucoup, Wilfried et Patrick. Et
merci.
Donc, demain soir à la laiterie.
Merci à vous. Merci à votre dialogue.
Bien enfoncé, je suis le roi Arthur qui visite ses sujets. Je passe devant leur clôture, un petit tour pour leur montrer la magnifique peinture gris argent métallisé. Et je suis beau. Superbe auto, j'écoute en boucle des CD achetés en promo à la foire fouille du Fenouillet. J'ai 300 watts en stéréo et je suis une célébrité quand je mets à fond le jojo sur le parking de Romarché. Et je suis beau. Que ça rugit sous le capot, je bande et je me régale. Et Lucette monte au rideau, et après hop, je la déballe. Et la mets oui sur le dos. Le cuir est imperméable, ils l'ont dit à Noroto. Et je suis beau.
À présent, eh bien, rendez-vous aussi pour ceux qui préfèrent le hip-hop. Ce sera demain sur la scène de l'Antirouille où le rappeur montpelliérain Molotov fera la première partie de Flint. Ça se passera donc à l'Antirouille avec aussi DJ Rolex qui sera de la partie. Une interview proposée par Mounir avec ses jingles qui déchirent.
Divergence FM.
Divergence FM 93.9, on est en présence de Monotoff, un artiste montpelliérain, rap montpelliérain depuis plusieurs années déjà, un militant actif. Bonjour Monotoff.
Bonjour.
Bah là on est avec toi parce qu'il y a un événement rap qui arrive sur la ville de Montpellier. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement rap qui aura lieu du côté de l'Antirouille?
Oui, donc cet événement rap, c'est un concert événement avec Flint et son équipe, Nasme et DJ Blaze. Donc c'est un concert qu'on a organisé avec notre association qui s'appelle Art de Vivre. Et puis voilà, le but de cette soirée-là, bah, déjà c'est de faire bouger le mouvement hip-hop à Montpellier, de faire grandir le mouvement hip-hop.
Ça fait plusieurs années que tu es un militant, on peut dire militant, hein, du rap à Montpellier, puisque tu as fait aussi des ateliers d'écriture. Est-ce que c'est difficile de monter ce type de projet? Parce que c'est vrai qu'on est en manque de scène dans le milieu du hip-hop et même en rap en général. Est-ce que c'est difficile?
Ben, moi je dis que la première des choses, c'est la motivation. Déjà. Après, c'est vrai que c'est pas facile. Il faut quand même se donner les moyens et avoir une petite équipe motivée. Et avec peu de moyens, déjà, on peut faire des petites choses. D'où l'Antirouille, parce que nous, on a pris l'Antirouille, on a choisi l'Antirouille parce que c'est une petite salle d'une capacité de 300 personnes. Donc, c'est dans nos possibilités. C'est une salle pas trop chère. C'est un centre-ville en plus de ça. Donc, oui, bien sûr, je dis à tout le monde qu'il y a possibilité. D'ailleurs, il y a de plus en plus de petits groupes comme ça, des petites associations qui s'organisent et qui montent des petits concerts hip-hop ou des petits événements comme celui qui est passé là le 13 novembre, et puis il y en a d'autres à venir. Et voilà quoi.
Voilà, parce qu'il y a eu un premier événement que tu as organisé, c'était avec Demi-Portion.
Avec Demi-Portion, oui, en effet, le 20 septembre. D'ailleurs, on avait fait guichet fermé ce soir-là. Voilà, donc on a compris vraiment qu'il y a une réelle demande sur la ville de Montpellier au niveau du hip-hop et du rap en particulier.
Mes couplets poussent dehors et je récolte. Le décor m'inspire. Un stick pour que je décolle et je crache ce que je peux pas retenir. Des millions de vies et parmi elles, combien de déceptions. Si je réussis, je rehausserai le niveau des exceptions. Mais bon, malgré les lésions, on représente fièrement. C'est pas le tiers-monde, mais on reste en dehors-grande entièrement. Toujours la tête haute, pourtant dedans c'est le foutoir. Tous instables, on cherche le genre comme stable. Les frères coupables, c'est fréquent. Tous plus précoces qu'avant, bavant devant l'oseille. Et des types payent, braqués à plat ventre. Le métier rentre tôt et l'expérience vite quand on n'a pas de francs. Juste des rêves trop grand dans une vie trop petite. En vrai, y'a peu de titres et beaucoup de prétendants. On tente de devenir quelqu'un en restant vrai, t'entends. Je bosse pour faire péter le poste, il faut que le son monte. L'impression d'avoir 30 ans de plus quand je parle de mon monde.
Justement, c'est un sujet quand même qui est intéressant à traiter parce que ça fait des années qu'il y a des rappeurs à Montpellier, X années, de très bons rappeurs d'ailleurs. Mais le souci, c'est plutôt les structures qui manquent. Et c'est vrai que peut-être que maintenant vous êtes arrivé à un point, il faut se structurer.
Exactement. En fait, je dirais le défaut qu'on a, c'est qu'on n'a pas de réel exemple, nous, dans notre ville. Donc, il a fallu se construire soi-même. Je pense que c'est la même pour tout le monde dans la ville. Donc, ce qui fait que ça a mis beaucoup de temps pour comprendre certaines choses, parce qu'on est loin de la capitale. Donc, voilà. Et comme tu disais, oui, bien sûr, voilà, il faut montrer ses propres structures et pour pouvoir avancer plus facilement. Parce que tout seul, c'est comme un homme lâché dans la nature. Voilà, il est de suite perdu. Donc après, il lui faut du temps pour se retrouver. Donc là, c'est un peu la même chose.
En plus, selon si on voit les deux premiers concerts que tu viens d'organiser, c'est quand même sur un rap un peu plus spécifique, ce qu'on appelle plus communément du rap conscient, puisque Demi-Portion.
C'est vrai. Et après, c'est vrai que voilà, personnellement, c'est le style de rap que j'aime bien. Donc on a préféré programmer des gens qu'on écoutait, tout simplement. Après, à l'avenir, bien sûr, on compte en donner pour tout le monde, quoi. Il en faut pour tous les goûts. Après, c'est vrai que c'est plutôt du rap axé sur les cultures, axé sur le rap conscient, même si, bon, conscient, c'est un mot qui veut tout dire et qui veut rien dire, mais voilà, c'est plutôt axé, pour l'instant, ça a été axé sur les rap à écriture.
Alors, est-ce que tu peux nous parler de cet artiste qui s'appelle Flint, et qui arrive donc du 18e arrondissement de Paris, je crois, si je ne me trompe pas?
C'est ça, ouais, c'est un artiste de Paris, 18e arrondissement, c'est un gars qui s'est fait connaître avec la Secret Connection. Voilà, et aujourd'hui, il a son deuxième album. Son premier album est sorti en 2007, il était au top des ventes. Et là, il a sorti son album le 15 octobre. Et pareil, il a été au top des ventes. Là, il est encore actuellement au top des ventes rap français. Donc, c'est quelque chose de très bien. Et puis, c'est un très bon artiste que je recommande aux gens pour écouter s'ils veulent du rap français.
My V
ville. Entre deux passages à vide, je dois faire du bif pour ne pas passer à côté de ma vie. Mais dur de faire ça vite et sans croiser une chance inouïe. Car même doué, comment s'épanouir, le cœur noué. Trop souvent floué, on préfère garder ses distances. Une existence vouée à faire preuve de sa résistance. Je me dépense dans l'anonyme, toujours loin des tendances. Peut-être dans une vie anodine, mais dans l'indépendance. L'esprit le stéochite, quand j'ai plus envie de voir les choses en face. Mais la réalité nous contient quoi qu'on fasse. Les printemps passent, et à chaque jour sa nouvelle leçon. Je veux ni vivre béat, ni mourir dans une mare de sang.
Est-ce que tu peux nous rappeler donc la date, les contacts, donner plus d'informations pour ceux qui sont intéressés soit de venir découvrir, ou d'accord, pour ceux qui connaissent déjà?
Alors le concert, c'est le 28 novembre. À partir de 20h à l'Antirouille. L'Antirouille, c'est au centre-ville de Montpellier, donc c'est pas difficile à trouver. Maintenant, pour les préventes, il y a des préventes en place sur Internet, sur la page Art de Vivre, et sur le www.wizevent.com/flint. Ensuite, tu peux les pécho, si tu n'as pas de quoi les prendre sur Internet, tu peux aller directement en centre-ville, à 36 Grand Rue Jean Moulin, au magasin, au street shop The General.
Donc Antirouille, 28 novembre, à partir de quelle heure?
À partir de 20h30.
Ok, un petit dernier mot pour les auditeurs de Divergence.
Alors, pour tous les auditeurs de Divergence, restez comme vous êtes. Et Montpellier, c'est hip-hop.
Hip-hop jusqu'à la mort.
Hip-hop jusqu'au bout, jusqu'à la mort.
Ben, nous, on se retrouvera de toute façon dans les coulisses et on essaiera un peu de traiter ce sujet à l'intérieur.
Voilà, et un grand merci à toi, Mounir. Voilà, ça fait super plaisir.
À bientôt. À bientôt, mon auteur. Ciao. Allez, ciao.
Et oui, jusqu'à la mort, mais on va rester bien vivant, tout comme le très vivant Neil Cowley Trio, qui se produira ce vendredi sur la scène de Le Jam, un trio plutôt atypique, avec un contrebassiste tatoué et qui arbore une moustache somptueuse. Pour le voir, eh bien, vous pouvez simplement appeler au 09 51 17 34 04, 09 51 17 34 04 pendant les 5 prochaines minutes. Sinon, vous envoyez un petit mail à invitation au pluriel at divergence-fm.org, invitation au pluriel at divergence-fm.org pour gagner une place pour aller voir ce concert au Jam. C'est ce vendredi soir. On se quitte en remerciant Bruno Bertrand et Gérard Viol d'avoir réalisé cette émission, et on se quitte donc avec un extrait de cet album. Je vous conseille d'aller faire un tour sur neilcowleytrio.com pour voir bien un joli clip et puis vous faire une idée de ce qui vous attend vendredi au Jam. Salut.